Amour durable se dit d'une relation amoureuse de nature à durer longtemps qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple? Save Your Love Date est fait pour vous. Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est aujourd'hui Mathilde que nous recevons avec grand plaisir à notre micro. Et pour la première fois dans Au cœur du couple, ce sont deux sujets que nous allons aborder. J'ai fait connaissance avec Mathilde via son compte Instagram, car Mathilde est créatrice de contenu mode et lifestyle. Elle a 31 ans et elle a rencontré son prince charmant il y a 4 ans. 6 mois après cette rencontre, ils étaient fiancés et quelques mois après, mariés pour leur plus grand bonheur. Avec Mathilde, nous allons parler créativité. En effet, elle et son mari ont une imagination débordante dès qu'il s'agit de mettre de la fantaisie, du beau et de l'exceptionnel dans leur vie. Elle partage avec nous ses idées folles, mais accessibles. Nous allons également aborder un sujet plus délicat. Mathilde et son mari sont dans l'attente de leur premier enfant. Ces mois qui passent, sans que rien ne se passe, sont une souffrance pour eux. Mais, ce qui l'est plus encore, ce sont les réflexions qu'ils peuvent entendre à ce sujet. C'est pour bientôt? C'est parce que tu y penses trop? Vous n'en voulez pas? Ensemble, nous allons réfléchir à ce qui peut être dit et ne pas dit à ceux qui vivent cette situation et à la façon dont nous pouvons agir pour être présents sans être indélicats. Deux sujets qui peuvent sembler sans rapport, mais qui finiront, vous l'entendrez, par se rejoindre. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple où aujourd'hui nous avons la joie, la chance d'accueillir Mathilde avec laquelle nous allons aborder deux sujets, ce qui est rare dans Au cœur du couple, mais peut-être que ce sera deux sujets complémentaires, mais en tout cas, voilà, ils sont assez différents l'un de l'autre. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci, merci de me recevoir.
Nous sommes très heureuses de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors nous, on te connaît, mais tous ceux qui nous écoutent peut-être pas. Donc est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans. J'habite une petite ville, enfin peut-être d'ailleurs une moyenne ville selon les conceptions, des Hautes-Alpes. Je suis créatrice de contenu de mon état de vie donc sur les réseaux sociaux. Et je suis mariée depuis bientôt 3 ans avec un mari qui me fait la joie d'être militaire et donc plutôt absent. Je pense que c'est une particularité de notre couple.
Est-ce que tu veux bien justement votre couple nous en dresser un petit portrait?
Oui, alors on s'est rencontrés il y a un peu plus de 4 ans par des amis qui nous ont présentés, qui se sont dit qu'on irait bien ensemble et ma foi qui ont eu du pif puisque 3 mois après notre rencontre, il m'a demandé en mariage. Donc on a pris la décision assez rapidement de se marier, mais on le regrette pas du tout puisque on est encore, enfin on sera toujours, mais on est très amoureux et on ne regrette pas du tout cette décision un peu folle qu'on a prise, même si c'est vrai qu'au début, je pense que ça a un peu étonné notre entourage, qui avait rarement vu, je pense, un couple prendre une décision aussi rapide. Mais donc voilà, et donc tout s'est fait très vite. On s'est fréquenté finalement pendant 1 an de fiançailles, puisqu'on s'est fiancés, on se connaissait depuis 6 mois. Et voilà, et maintenant on est mariés depuis 3 ans.
Alors, moi, je suis venue vers toi pour t'inviter à notre micro, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, tu as un compte, on le mettra dans les notes pour ceux qui veulent te retrouver, tu as un compte qui est très joyeux, très vivant et très créatif, notamment au sujet de votre vie de couple. Et en fait, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur le pardon, et tu es venue me dire, sans doute en commentaire, que vous faisiez, il y a quelque chose que vous avez mis en place
entre vous que tous les soirs, au moment de vous coucher, vous demandiez pardon. Et que ça, c'était écrit dans le contrat de mariage que vous vous êtes fait l'un à l'autre. Donc là, on a commencé à converser toutes les deux. Et donc, sur ce thème de la créativité, parce que là, c'est ce qui a fait notre accroche entre nous deux, mais j'avais vu d'autres publis avant en me disant, mais dingue, tout ce qu'ils font. Moi, déjà, je me trouve un peu créative dans mon couple, mais là, je crois que toi, j'ai trouvé mes maîtres. Et donc, ça m'intéressait de pouvoir discuter un peu de ça avec toi. Parce que la créativité, on le sait, on en a pas mal parlé avec Marie-Lise dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Pour nous, c'est vraiment une des clés de vie, en tout cas, du couple. Bon, c'est vrai que vous, pour le coup, vous êtes quand même des jeunes mariés, des jeunes amoureux. Vous avez 3 ans de mariage, 4 ans d'amour. Mais je pense qu'il y a déjà, au bout de 3-4 ans, des couples qui sont déjà dans la routine et qui n'ont plus trop d'idées pour maintenir le feu, la flamme. Donc déjà, bravo pour ça. Sur ce, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce contrat de mariage? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, bah en fait, je sais plus trop comment on a eu l'idée. Je crois que ça vient de mon mari, hein, parce que lui-même, il est un peu. On a tous les deux notre grain de fantaisie. On aime bien faire des choses comme ça, et je crois que ça vient de lui. Et en fait, moi, j'ai écrit ce que j'attendais de sa part sur un contrat, et lui, il a écrit sur un contrat ce qu'il attendait de ma part. On avait fait ça quand on était. Enfin, moi, j'habitais à Paris à l'époque, et lui était à Marseille. Donc, et le week-end, on s'était retrouvés. On avait tous les deux signé notre contrat, et on s'est dit voilà, ça c'est notre contrat de mariage. Il y en a, ils déposent leur contrat de comment ils vont gérer leurs finances chez le notaire, et nous, c'est juste un truc qu'on a écrit, signé. Il est encadré dans le salon. Alors ça fait toujours un peu rire nos amis quand ils viennent à la maison, parfois ils regardent ce truc, parce qu'en plus on l'a fait sous forme de contrat de partenariat, un peu comme si on était une marque et un influenceur, enfin c'est un peu original. Donc du coup voilà, lui il a l'obligation de me rendre heureuse tous les jours de sa vie. C'est un contrat évidemment d'exclusivité, enfin voilà, on a mis un peu ce qu'on voulait, et effectivement sur ce contrat on a mis qu'on avait l'obligation tous les soirs de se demander pardon si on s'était blessé dans la journée. Et c'est vrai que c'est une habitude qu'on a pris, et c'est drôle parce que parfois il s'excuse pour des trucs, parfois je me souviens même plus qu'il a fait ça dans la journée. C'est-à-dire qu'il me demande pardon pour m'avoir, il a l'impression qu'il m'a baissé sur quelque chose, et moi je dis mais attends, je me souviens de ce moment de la journée, mais je me souviens pas du tout que ça m'ait blessé. Mais donc du coup c'est devenu tellement une habitude qu'on se demande pardon pour absolument tout, même parce qu'on se fait pas des crasses au quotidien tous les jours, donc on n'a pas toujours un grand pardon à se donner. Mais je trouve que c'est une hygiène de vie, un peu comme se dire tous les jours par exemple je t'aime. Moi je trouve ça super important, et donc tous les matins, qu'il soit présent ou qu'il soit absent, la journée commence par un message de mon mari qui me dit un mot d'amour, et la journée finira toujours par un message de mon mari, et moi je lui réponds, qui sera aussi un mot d'amour, comme ça hop, la parenthèse est bouclée. Mais pour toujours en fait être en sorte d'avoir un sommeil serein, voilà, la journée finit sur quelque chose de beau, et la journée commence par quelque chose de beau, et au milieu, parfois, les crasses de la vie.
Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est écrit aussi sur votre contrat, ce petit mot du matin et celui du soir. Ouais. Pour revenir sur le contrat, ce que tu dis que vous aviez fait chacun de votre côté, vous avez mis en commun, est-ce que du coup, vous avez eu une conversation, un débat sur ce que vous mettiez dans ce contrat, ou vous avez vraiment rassemblé vos deux contrats mis en un?
Je crois qu'on a vraiment fait ça. On a chacun écrit de notre côté, et après on a eu une relecture. On se l'est envoyé par mail, on a fait une relecture du contrat de l'autre, on a apporté les petits alinéas de correction. Voilà, chacun, vraiment comme des commerciaux en fait qui signent un contrat de partenariat. Et donc on a quand même eu une petite relecture, et après on les a signés. On s'était fait un peu comme quand on signe un appart et tout, on avait ouvert du champagne, signature, et c'est bon, on a signé. Mais oui, ça s'était fait assez naturellement.
Jeunes amoureux, retenez cette idée, c'est vraiment canon. Et puis moi, tu vois, j'ai presque eu le regret de pas l'avoir fait en son temps, et je me suis dit en fait, est-ce que ce serait trop tard maintenant, tu vois, pour le faire, Marie-Lise? Est-ce que tu penses que, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en cours d'une vie de couple?
Je pense qu'on peut le mettre en cours d'une vie de couple. Et puis en plus, tu parles des alinéas à modifier. Je me dis, il peut y avoir des nouveaux alinéas parfois, des avenants au contrat, des choses qui se modifient avec la situation familiale qui peut évoluer, les carrières qui évoluent, j'en sais rien, des modes de vie qui peuvent changer, nos envies aussi. Donc, et ce que je trouve génial en fait quand tu dis ça, c'est avec un peu cette pudeur de cette folie à deux, et en même temps comment ça peut avoir de l'ampleur et fonctionner quand on y croit et qu'on est pleinement impliqué. En fait, avoir à la fois ce décalage et cette folie, mais qui est faite de façon très sérieuse pour que ça ait de l'intérêt et de la puissance. Et c'est ça que je trouve génial. Où souvent on n'ose pas en fait rentrer sérieusement dans notre folie. On se dit ah oh, mais non c'est bon, on rigole, on se le dit comme ça en y pensant, mais on va pas au bout des choses. Et c'est ça que je trouve dommage parfois, de se dire mais non, mais on peut aller au bout de notre folie et y croire et rendre la chose à la fois sérieuse et amusante.
Mm-hmm. Ouais, parce que là, on se dit, tiens, un jeune couple qu'entendrait ça, c'est par exemple la jeune femme qu'entend et qui se dit, oh non, mais qu'est-ce qu'il va dire, tu vois, si je lui propose, il va peut-être trouver ça ridicule. Mais je pense que t'as raison. Il faut aller quand on a comme ça une idée pour laquelle on a un coup de cœur, ben il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Tu vois, au risque peut-être au début de se prendre, tu vois, un vent par l'autre. Je sais que ça arrive pas mal, tu vois, dans les nanas qui achètent ci dès qu'ils proposent à leur mari, elles disent non, ça, je ferai jamais ton truc. Mais en fait, voilà, bien expliqué, bien emmené, on peut y arriver.
Et puis amener avec la plaisanterie, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça ce que tu dis. C'est quand tu dis même le format était très imagé, très original. Comment aussi tu rentres le plus dans l'originalité et le délire, plus t'as envie de t'amuser, un peu comme quand t'es enfant et que tu joues, plus le décor il est impressionnant, plus il y a de l'ambiance, plus t'as envie d'y aller en fait aussi. Donc ça crée de l'envie et du désir à aller dedans.
Et ça, Mathilde, dans votre couple, sur cette créativité, il y a un équilibre. Est-ce que vous êtes tous les deux d'esprit créatif? Est-ce que ça a été plus porté par l'un et l'autre y est venu? Ou est-ce que ce n'est porté que par l'un et l'autre ne fait que suivre?
Alors, je dirais que de base, moi, je suis une personnalité un peu fantasque. J'aime bien les choses un peu fantaisistes. Et mon mari, sur le principe, peut-être quand je l'ai rencontré, il avait l'air plus peut-être sage, mais je pense qu'en fait c'était juste nous deux, c'est le cocktail qui marche bien. C'est lui, c'était l'ingrédient qu'il fallait pour que ça mousse, et que en fait il y a beaucoup d'idées saugrenues qui viennent quand même souvent de lui, et des choses où parfois je me dis mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé moi-même. Mais en fait parfois les gens ils voient notre vie, ils disent mais attends, mais ton mari, est-ce que t'es pas celle qui mêle le truc avec tes idées loufoques, et lui gentil bonne patte, il dit oui. Et en fait je leur dis non, mais cette idée c'est pas moi, c'est lui, et il est assez moteur de trucs parfois complètement délirants. Et je sais pas si j'ai des exemples parfois où il me propose des choses, je dis bon bah, enfin il est quand même très moteur d'idées folles, et moi je suis très moteur de dire oui à peu près tout.
D'accord, donc vous êtes vraiment clairement bien trouvé là-dessus.
Eh oui, surtout, hein, d'ailleurs, on s'est quand même bien trouvé sur tout, mais globalement, on se freine pas. En fait, à deux, on se freine pas. On a un peu cette idée de vouloir vivre dans un film. Enfin, moi, j'aime bien l'idée de vivre. Je me dis, en fait, une vie, on n'en a qu'une seule, et notre vie, c'est ce qu'on en fait. Donc, en fait, qui nous interdit d'en faire un truc de fou? Et tu vois, moi, j'ai un peu des références. Je sais pas si vous avez lu le livre « En attendant Beaujanglès », ce que je trouve extraordinaire, si on fait abstraction du fait que la fille est cliniquement un peu atteinte. Mais j'aime bien ce fait d'être... en fait, pourquoi pas? En fait, si on a envie de boire du champagne à 10h du matin dans notre lit, un week-end où il pleut, eh ben pourquoi on peut pas le faire? Si on a envie... Nous, on adore... Alors, nous, on fête les mauvaises nouvelles, par exemple. C'est un truc... dès qu'on a une mauvaise nouvelle, on fait la fête. Donc, on met une belle tenue. Je demande à mon mari quelle robe il veut que je mette et tout. Donc, il me dit « Ah, mais celle-ci, je la trouve trop belle. » On va acheter des huîtres. On sort le champagne, on allume des bougies. Et on fête les mauvaises nouvelles. Genre, on a fait ça la première fois parce que notre voyage de noces avait été annulé à cause du Covid. Et je m'étais dit, ah non, mais le truc pourri, on est en plein confinement, ça fait 3 mois qu'on organise ce voyage de fou, et ça tombe à l'eau, et je me suis dit, on va pas se laisser déprimer encore plus. Donc en fait, non. Donc tu mets un costume, je mets une jolie robe, j'avais acheté du foie gras, des huîtres, plein de trucs trop bons, on avait dressé une table de fou. Et du coup, c'est resté une tradition pour nous, genre on fête les mauvaises nouvelles, et c'est saugrenu, mais en fait, qui nous interdit de le faire? Personne. Donc en fait, la limite, c'est nous qui la fixons...
Ouais, non mais et j'adore, je vais noter toutes les idées que tu donnes. Est-ce que alors moi j'avais noté celle que j'aime beaucoup beaucoup, puisque en fait elle est sous forme de rendez-vous, c'est que je crois que vous avez une table et deux chaises. Alors je sais pas si vous promenez tout le temps avec, mais en tout cas vous les avez, et puis vous partez vous installer. Alors moi j'ai plutôt vu en pleine nature, mais peut-être que vous avez pu faire ça dans des endroits un peu plus citadins, mais et vous là vous dressez une table et c'est parti quoi. Vous faites votre restaurant en fait là où vous voulez.
Ouais, bah en fait ça c'est une idée pour le coup, c'est une idée de Joe. En fait, il avait vu une fois une photo d'un restaurant d'altitude, donc pas du tout des gens qui sortaient leur table de cuisine comme nous on fait. C'était juste un très joli restaurant d'altitude, et en fait nous dans notre région, il y a pas beaucoup de très jolies adresses pour des repas en amoureux. Et en fait, on s'est dit bah en fait, s'il y a pas d'adresse, bah on va la créer l'adresse, et nous on rêverait d'un joli restaurant panoramique avec vue sur le lac de Serpenson. Bon bah vu qu'il y a pas de resto comme ça qui fait exactement le menu qu'on veut, et ben en fait, on va prendre notre table de cuisine et nos deux chaises, là, hop, on les met dans le coffre. Après, on prend notre jolie vaisselle, on va faire les courses et tout, et on se dresse effectivement notre table avec notre seau à champagne rempli de glaçons et tout, qu'on met dans la glacière. On dresse tout ça pendant une demi-heure avec la voiture sur le bas-côté. On se met là où on a envie de se mettre. On choisit selon l'ambiance. Parfois, on a envie de voir des montagnes enneigées. Parfois, on a envie de voir le lac. Parfois, souvent quand même dans la nature. Mais parfois, il y a quand même des gens qui passent devant nous et qui nous regardent et qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Sachant que l'année dernière, on l'a fait... pour notre anniversaire de mariage et que à chaque anniversaire de mariage, alors le premier j'avais remis ma robe de mariée et l'année dernière mon mari m'avait offert une autre robe et cette année j'en aurai encore une. En fait, on refait un échange de consentement tous les ans à notre anniversaire de mariage et on sort notre table et sauf que les gens nous voient et doivent se dire mais c'est quoi ces gens qui font ça au milieu de nulle part. Mais le regard des autres moi me dérange pas là-dedans parce que c'est du beau qu'on partage.
Ça, je crois qu'on l'aura bien compris.
Ouais. Et j'adore ouais, cette petite tradition. Maintenant c'est venu en fait quand on veut. Bah parfois le samedi on se dit ah, on se ferait bien un repas un peu sympa, enfin il fait beau, on a envie de sortir et du coup bon, bah comme il y a deux restos dans la ville où on est, en fait on fait notre resto, on mange ce qu'on veut et en fait c'est trop bien, c'est trop sympa comme moment.
Et ce que je trouve sympa c'est que tu nous montres, parce que et ça on le disait avec Marie-Lise dans le livre, c'est que en fait il y a des choses vraiment qui coûtent pas cher à faire et qui ont un effet waouh. Et là clairement tu vois dans ce que tu dis, bon en fonction de ce que t'achètes pour ton dîner, tu vois tu mets le budget que tu veux, mais tu peux le faire d'une façon simple, mais ton cadre, ton décor et tout ça ce sera gratuit. Oui. En fait c'est à la portée limite de tout le monde.
Oui. Non mais
donc,
exactement
ça j'aime beaucoup, t'es pas en train de nous sortir tu vois des idées de l'espace où les gens vont se dire attends elle est sympa elle, mais en fait nous on n'a pas du tout le budget pour ça. Non en fait ça c'est vraiment tu vois tu trouves sur le bon coin une vieille petite table de bistrot, deux chaises et puis c'est parti, tu le fais tu vois, donc c'est vraiment à la portée de tous.
Même sans la table en fait, moi je suis persuadée que mettre du beau dans sa vie, enfin nous c'est quelque chose, on est très attaché au fait de mettre du beau dans notre vie parce que on se dit que plus on fait le cadre de vie est beau, plus ce qu'on mettra dans le cadre sera beau. Enfin quand on a un très joli cadre, on n'a pas envie de mettre une image moche dedans et donc on est très attaché à ça. Mais en fait ça, c'est, il y a des gens qui se disent mais c'est pas possible, ils flambent tout le temps, mais en fait juste aller faire un pique-nique en rase campagne et juste prendre la jolie nappe plutôt que de manger sur un torchon, c'est 0 €. C'est juste peut-être la machine si on a fait une tâche sur la nappe. D'amener la jolie vaisselle en pique-nique plutôt que de manger dans des éco-cups en carton, c'est 0 €. C'est juste bien les emballer pour pas casser la vaisselle. Mais en fait, ça ne coûte rien de joliment dresser la table. Et même parfois, ça, comme tout le monde, ça nous arrive d'avoir le frigo vide et d'avoir des soirs, y a rien à manger. Mais par exemple, Joe, souvent ce qu'il fait, c'est qu'il va faire le dîner sous forme de toast. Alors même les vieux restes, hop, il les dresse comme sous une forme de planche apéro, etc. Il va créer des cocktail avec des trucs, enfin avec des restes de fond de cave, mais ce sera dans le joli verre. Et en fait, mettre du beau dans sa vie, c'est pas nécessairement aller faire des boutiques de luxe, même si c'est très sympathique aussi. Hein. Mais en fait, mettre du beau dans son quotidien, ça coûte rien. Mettre une jolie robe pour le dîner, par exemple, se changer pour le soir, c'est très 20e siècle, hein, mais en fait, mettre une tenue du soir, ça ne coûte rien. Et recevoir son mari le soir bien habillé, c'est gratuit. Ça coûte pas plus cher que de le recevoir en jogging. Mais pour le coup, on a toujours plus envie de se dire des mots d'amour, je crois, quand on s'est préparé, que quand on se reçoit un peu en schlag après la journée de boulot, quoi.
Ouais, clairement. Est-ce que tu penses que votre rythme de vie qui est particulier, puisque tu nous as dit que ton mari était militaire et donc il part régulièrement en mission, est-ce que tu penses que ça joue sur cet attachement que vous avez à faire des jours où vous êtes ensemble, voilà, des jours plus savoureux et plus beaux?
Oui, ça c'est certain que le temps qu'on a ensemble étant moitié moins que chez un couple classique, on est conscient de la rareté des moments et donc on veut les habiter trois fois plus parce que déjà on n'a pas de routine. C'est vrai qu'on on est toujours dans une période depuis qu'on est mariés, on a toujours été dans des périodes soit de pré-départ, soit de post-retour, enfin, mais on a toujours été sur le fil de d'une séparation ou en train de faire des retrouvailles. Donc c'est vrai qu'on trouve super important que quand on est ensemble, faut que ce soit beau. Si vous avez forcément vu le film Titanic, parce que sinon c'est une honte pour vous, mais à un moment ils portent un toast et ils disent pour que chaque jour compte. Et en fait, je trouve cette phrase géniale. C'est faut pas qu'il y ait des jours où on se couche en disant mais nul, on était ensemble alors que ça arrive. Finalement, enfin, c'est quand même pas la plupart du temps qu'on est ensemble. On a passé presque autant de temps séparés depuis qu'on est mariés que ensemble. Donc, ces jours-là, on peut pas se permettre de les jeter à la poubelle et de se dire bon, ce jour-là, il est raté. On essaiera de faire mieux demain. Il faut que chacun soit beau. Donc, c'est vrai que ça nous donne un peu plus. On a un peu plus l'obligation, je pense, une obligation. Qu'on se met tout seul, mais je veux dire le fait que les moments ensemble ne soient pas quelque chose de fréquent. On veut en faire quelque chose d'exceptionnel à chaque fois.
Oui, et puis je pense que même quand tu as la chance de voir ton mari tous les jours, parce que moi j'ai la même phrase que je mets souvent dans mes publis parce que chaque jour compte, et c'est dire que demain vous savez pas surtout. Demain vous ne savez pas ce qui peut se passer. Donc si ça doit être aujourd'hui la dernière journée, il faut que vous ayez eu ce moment entre vous de rire, ce regard, ce mot d'amour. Donc une fois encore, tu vois, votre idée de commencer votre journée par ce mot et le terminer. enfin c'est canon, vous êtes complètement dans l'esprit Sunday Love Date, c'est un truc de fou.
Ça va alors.
Et j'ai juste une question. Je pense justement à des personnes qui seraient un peu réfractaires, qui diraient oh mais c'est pas si simple, ou comment vous faites pour gérer dans cet univers un peu de beauté que vous créez, pour comment vous vivez peut-être pour qu'il n'y ait pas de pression à la réussite, à cette espèce de perfection de beauté, où j'exagère le trait hein, pour volontairement, ou de vivre, comment vous vivez la déception, peut-être que justement ça tourne pas quand ça tourne pas comme prévu, ou que c'est pas aussi beau que ce que vous aviez imaginé dans votre tête, comment vous gérez ces éléments?
Je sais pas si ça s'est déjà présenté qu'on soit un peu déçu par parce qu'en fait quand on est je saurais pas comment. J'ai pas l'impression qu'on était confronté à ce genre de choses, parce que si par exemple il fait mauvais, et ben on arrive assez bien à se trouver une solution et se dire ok bon bah c'est pas grave, on fera le pique-nique dans la voiture ou on fera le pique-nique au milieu du salon. Et puis comme en fait on fête les mauvaises nouvelles. En fait, quand les choses sont, c'est souvent en plus de la contrariété que naissent un peu nos idées, justement, de se dire, non, mais cette journée, parfois, on se regarde, il est 16h, on dit, attends, on n'a rien fait, c'était nul, il pleut. Et là, on est déçu, et du coup, on se dit, ok, tu sais quoi, on va faire couler un bain avec plein de mousse, on va regarder un dessin animé, parce que, on regarde que des dessins animés, parce que ça met de bonne humeur, et on dit, ok, on va se mettre un bon Disney, et tu sais quoi, on va boire du champagne, parce que, c'est pas la promotion de l'alcool, hein, mais quand même, ça met des bulles dans la vie. Mais du coup, je sais pas, c'est pas une pression qu'on se met, c'est juste une volonté qu'on a de vivre une vie qui est belle et de pas. En fait, il y a tellement de gens, je pense, qui sont un peu tristes dans leur vie, qui sont là, qui se laissent un peu juste malmenés par le quotidien. Et nous, ça nous rend trop tristes de voir ça. Et on se dit, on veut pas du tout devenir des gens comme ça. C'est une volonté qu'on a pour être.
Mais je crois que c'est ça que j'avais envie de t'entendre dire, c'est cette question aussi de volonté, comment l'implication et l'engagement qu'on se donne a aussi une grande part. Et à t'entendre, au-delà de la beauté, qui est un credo chez vous, en fait, c'est aussi comment ramener de la joie, en fait, quand tu parles, c'est comment ramener de la joie dans le quotidien et pouvoir l'apercevoir dans le moindre petite chose.
Oui,
c'est dire qu'elle est toujours là dans un coin, en fait.
Quand je t'entends dire ça, Mathilde, je me dis qu'il y en a peut-être qui vont penser, ceux qui ne te connaissent pas, oui, bah c'est certainement facile quand on a, enfin, la vie est belle, on est amoureux, alors évidemment d'être créatif, d'être joyeux, de fêter les petites nouvelles qui n'en sont pas vraiment, enfin les mauvaises nouvelles, pardon, qui n'en sont pas vraiment, c'est simple. Mais en fait, il faut savoir que, et ça c'est le deuxième sujet que on avait envie d'aborder avec toi, c'est que vous vivez quand même une difficulté tous les deux au sein de votre couple, que tu as fait un post il y a maintenant quelques semaines sur ce sujet, que c'est un poste qui m'a interpellée, parce que c'était une question, c'est une question qui m'a touchée, et donc j'avais envie d'en parler avec toi. Je te laisse nous parler de ce poste.
Oui, donc il y a quelques semaines, on a pris la décision avec mon mari de rendre public un état de fait qui est qu'on a des difficultés à avoir un enfant. Voilà, nous on a toujours voulu avoir une famille depuis qu'on s'est mariés, et de fait on va être mariés depuis 3 ans et on n'a pas encore d'enfant. Et donc c'est vrai que notre quotidien, on essaye de le rendre très beau parce qu'en fait c'est quand même depuis 3 ans qu'on a cette souffrance du manque de l'enfant désiré. Et en fait, oui, c'est vrai que de l'extérieur, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire non mais ça va, entre les pay opex qui lui permettent de vivre la fast life, le fait de vivre dans une jolie région, et de toute façon c'est facile pour elle, de toute façon elle bosse à la maison. Enfin, peut-être que de l'extérieur on peut donner l'impression que tout est simple, mais en fait c'est surtout qu'on a le besoin de mettre beaucoup de joie et de beauté dans notre vie, parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous manque profondément, et qui n'est pas un manque qui vient de mon mari, ou un manque qui vient de moi, ou un manque dans notre relation qui serait pas construite sur des bases solides. C'est juste un manque de quelque chose qu'on peut pas décider. Enfin, c'est un peu la loterie de la vie, la fertilité. Et bon, nous voilà, on n'a pas tiré le gros lot a priori, pas pour l'instant. Et du coup, voilà, on n'a pas gagné au loto, mais en attendant, on essaye quand même de faire en sorte que malgré cette souffrance, en fait, on a d'autant plus la nécessité de rendre la vie belle que, de fait, il y a quand même quelque chose qui est pas très joli, enfin, qui est un peu triste dans cette vie, qu'elle correspond pas exactement à l'image qu'on s'était fait, de notre mariage au départ.
Alors, ce poste, tu l'avais fait sous l'angle des remarques que vous pouvez recevoir par rapport à cette attente d'un enfant, et tu listais un peu tout ce que vous pouviez entendre, et en fait qui était une souffrance supplémentaire pour vous, parce que c'était parfois décalé, c'était parfois trop intrusif. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ça?
Ouais, en fait, c'est vrai que j'ai fait le post. Je voulais un peu, alors pas faire une leçon de morale, mais je me suis dit j'ai de l'audience, j'ai des gens qui me lisent, et certainement que dans toutes les personnes qui me suivent, il y a des personnes qui ont ces réflexions maladroites de dire alors le bébé c'est pour quand, ah vous voulez pas d'enfants, ou alors de dire ah bah, vous avez raison de prendre votre temps, c'est vrai que quand les enfants arrivent, ta vie est toute bousculée. Enfin, leur dire je rêve que ma vie soit bousculée par un enfant. Donc vraiment ton jugement de valeur sur un choix de vie que je n'ai pas fait n'a pas lieu d'être. Et c'est vrai que les gens se sentent très investi de poser des questions sur la fertilité des gens, alors que c'est quand même du domaine de l'intime, enfin ce qui se passe dans le lit d'un couple, je pense ne regarde absolument personne, sauf les personnes à qui à la rigueur on a envie d'en parler. Et les gens, ils ont un peu un regard comme ça. Il y avait une espèce de curiosité en plus que j'ai senti grandir au fil des années. Au début, bon bah les gens ils se disent ah c'est des jeunes mariés, ok ils ont pas d'enfants machin. Et en fait, au fur et à mesure des mois, c'est pour quand et qu'est-ce que vous attendez et après. Les gens ont fini par comprendre, je pense, quand on bascule encore un peu plus loin, quand les mois continuent de passer, les gens devinent qu'il y a peut-être un petit souci. Et alors là, c'est les conseils non sollicités où on n'a rien demandé à personne et tout le monde, mais vraiment tout le monde semble savoir exactement comment il faut faire un enfant et pourquoi nous on n'y arrive pas. Mais que tout le monde a une solution à notre souci et tout le monde arrive avec son petit grain de sel de est-ce que t'as pensé à arrêter de fumer, oui j'y ai pensé, à moins faire la fête et en même temps t'es très stressée et en même temps ton mari il est très absent. Et en fait tout est un peu dans la culpabilisation de la femme en plus essentiellement de dire oui mais si ça marche pas c'est forcément qu'il y a un souci et le souci il est forcément lié à ta façon de vivre, il y a forcément quelque chose dans ta façon de vivre qui explique le problème. Alors qu'en fait, parfois, juste le problème, il vient d'on ne sait pas où. Il y a plein d'infertilités qui sont inexpliquées. Et en l'occurrence, nous, c'est juste inexpliqué. C'est la faute à pas de bol. Mais les gens, ils ont besoin de trouver une solution. Peut-être parce qu'ils sont démunis face à l'infertilité et qu'ils, un peu comme quand une amie a un problème, on veut trouver une solution alors qu'elle veut juste parler. Mais j'ai trouvé que ça devenait très invasif parce que c'était très culpabilisant vis-à-vis de moi. Comme si j'avais fait quelque chose de mal et que c'était forcément de ma faute. Alors que c'est ni de ma faute ni de la faute de mon mari, et qu'en fait, juste, c'est déjà difficile à vivre, mais si en plus je dois prendre des pincettes pour répondre aux indélicats, ça rajoute de la souffrance à la souffrance.
Alors, tu vois, moi, je me mets dans ce. Je me dis que tu aurais pu être mon amie, et que je pense que j'aurais pu avoir, tu vois, les phrases que tu cites envers toi, sans être, je pense, malveillante, tu vois, mais en voulant peut-être m'intéresser, en essayant d'aider. Qu'est-ce que toi, tu. Qu'est-ce que tu conseillerais presque à ceux qui seraient dans la situation d'être une de tes amies ?
Alors, souvent, quand même, je trouve que les réflexions un peu indélicates, elles viennent pas des amis. Elles viennent du cercle un peu plus éloigné, des gens qui ont juste une curiosité, qui veulent tenir leur tableau à jour de qui veut un enfant, n'en veut pas, va faire le deuxième, le troisième. Je trouve que ça vient plus souvent de l'extérieur, parce que mes amies, alors c'est elles qu'il faudrait interviewer pour qu'elles vous disent ce qu'elles font, parce que j'ai de la chance d'être incroyablement bien entourée par des amies très très bienveillantes, qui font exactement ce qu'il faut faire, je pense, c'est-à-dire qu'elles sont présentes pour moi. Elles ouvrent le dialogue sans question intrusive, juste en créant un climat qui permet de se confier, un climat voilà, dans parfois se voir sans avoir un nourrisson qui pleure dans les bras. C'est pas forcément le moment où on a son bébé qui pleure dans les bras qu'il faut se tourner vers une copine qui a du mal en disant et toi du coup ton projet bébé t'en es où, c'est pas la bonne situation. Je pense que voilà, c'est choisir le moment où avoir ce genre de conversation qui est qui doit être un moment un peu voilà dans une intimité, dans une confiance, pas forcément au milieu d'une soirée, au milieu des enfants, au milieu de la foule, pas forcément juste après une annonce de grossesse. La délicatesse. De toute façon, je crois que quand on est délicat et quand on se pose la question de se dire est-ce que ce que je vais dire va faire du bien, on peut pas se tromper. Mais il y a des gens qui se posent pas cette question, qui se disent juste moi je veux assouvir ma petite curiosité de savoir ce qu'il en est de son utérus. Et en fait, non. Enfin, ça ne se fait pas. Être présent, être dans l'écoute et ouvrir le dialogue pour que la personne, si elle a envie de parler, elle puisse le faire et qu'elle se sente dans un climat de confiance. Et que si elle a pas envie de le faire et qu'elle dit bah là j'ai pas envie d'en parler mais j'ai juste envie de faire la fête et venez vous prenez toutes des babysitters parce que j'ai pas envie de voir de bébé ce soir et on fait la fête entre filles comme si on était toutes sans enfants. Et parfois moi j'ai besoin de câliner, j'ai besoin de pouponner et mes amies elles s'en rendent compte aussi. Et je pense juste dans la délicatesse elles se rendent compte que là c'est le moment de me filer un enfant dans les bras pour que j'ai ma petite dose de câlinage. Mais je crois que quand on réfléchit en termes de juste est-ce que ce que je fais est bon pour la personne, est-ce que ça peut la rendre heureuse, est-ce que on peut pas se tromper, tu vois. Je pense que quand on pose la question de c'est pour quand, c'est évident que la réflexion derrière elle est pas dans la bienveillance.
Ouais. Alors ce que j'ai lu dans un article auquel tu as participé, c'est que Jésus disait en fait tant que la personne qui est concernée ne vous en parle pas, eh ben c'est que en fait c'est pas vous qu'elle va en parler. Et ça j'ai trouvé ça intéressant, mais parfois aussi des fois on peut peut-être se trouver, et ça peut-être Marie-Lise tu peux nous éclairer, devant une amie ou une personne un peu plus éloignée qui finalement sait pas comment aborder le sujet parce qu'elle se dit peut-être que ça va pas intéresser et que du coup elle reste avec et que nous comme on ne pose pas de questions, elle se dit ça l'intéresse pas en fait, ou on ne tend pas cette perche pour pouvoir en parler. Donc c'est difficile je trouve de savoir tu sais en fait où se placer sans entrer dans l'intimité, mais en même temps en montrant quand même qu'on s'intéresse.
Merci Mathilde pour tous ces retours. Moi, c'est vrai que en vous écoutant avant notre rencontre, je repensais à ma situation entre mon expérience pro et personnelle. Et je sais que par exemple dans mon intimité, j'ai pu être pas suffisamment délicate avec des amis où ils m'en parlent de façon impromptue dans une salle où il y a plein de monde et là elle me balance c'est compliqué pour nous, on n'arrive pas à avoir un bébé, et à dire un peu spontanément ah mais non je suis sûre que ça va aller, le truc qu'on n'a pas du tout envie d'entendre quoi, mais cette espèce de il y a la stupeur de l'annonce enfin où on s'y attend pas, et en fait je crois que c'est une généralité qu'on a face à la quand on est face à la souffrance de quelqu'un, de vouloir tout de suite un peu la gommer, parce que je travaille aussi beaucoup sur les questions autour du suicide, et c'est un peu les mêmes réflexes qu'on peut avoir quand on entend les souffrances des autres. Et je vois dans mon cadre de mon entretien professionnel au cabinet, c'est un espace où je sais que les gens vont déverser la souffrance, donc là on prend le temps, on déplie, j'autorise les personnes à pouvoir exprimer leurs difficultés, et même de pouvoir dire bah je souffre même si mon bébé je l'ai perdu à un mois ou deux mois de grossesse, et qu'on a le droit de dire qu'on souffre même si ça peut pas être entendu par tout le monde. Et je crois que c'est là que j'ai compris qu'en fait quand quelqu'un nous dit une difficulté qu'il a, il nous dit qu'une partie, toute petite partie de ce qu'il ressent réellement à l'intérieur de lui. En fait il y a ce que la personne nous dit qui est toute petite partie de sa grande souffrance qu'il vit intérieurement au quotidien, de ses questionnements, ses doutes qu'il a au quotidien. Il y a ce qu'il nous dit qui est tout petit par rapport à ce qu'il ressent au quotidien. Et nous, ce qu'on entend, qu'on diminue encore plus quand on est dans un cadre un peu amical. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, pouvoir se dire, mais en fait, elle vient de me dire un truc, mais il faut le multiplier sûrement par 10 pour avoir une conscience ou une idée de ce qu'elle peut vivre au quotidien et ce qu'elle peut ressentir. Et je crois que la première chose à avoir, c'est si on nous en parle, c'est de pouvoir se dire, oulala, tourne la langue dans ta bouche avant de parler, de pouvoir juste prendre le temps d'accueillir aussi cette nouvelle, de pouvoir se dire, là, accueille ce qui se passe et je te rejoins, Swazik. C'est pas facile de l'aborder et tu en parles un peu Mathilde, comment on peut tendre une perche et après laisser la personne venir en créant cet espace possible, ce cadre, comme on va le faire en couple hein. Si on parle de quelque chose de difficile, on va pas en parler alors qu'il y a des amis à côté ou qu'on est crevé, on va en parler dans un cadre propice. Donc là c'est comment dire, bah là je suppose que c'est pas facile ce que vous vivez en ce moment, c'est compliqué, je suppose que vous souffrez beaucoup dans tous les cas face à cette situation, tu sais que je suis là si t'as besoin d'en parler. Et je crois aussi ce qu'on aurait besoin des personnes qui peuvent vivre des situations comme ça d'infertilité, c'est aussi de pouvoir dire bah si je fais des choses qui sont indélicates pour toi ou qui te mettent mal à l'aise, peut-être que je le perçois pas et moi j'aurais besoin que tu me le dises en fait. Et je crois que c'est ces deux petits pas qu'on aurait besoin, à la fois vers l'ami qui puisse tendre une perche, dire je suis là, et vers la personne qui est en souffrance, qu'elle puisse oser aussi dire ce qui la met mal à l'aise. Parce que c'est ça qui est difficile parfois pour les amis, c'est de se dire bah là j'ai une bonne nouvelle, ou mon fils il vient de rentrer à l'école, je suis trop contente, mais est-ce que je peux lui dire, ou est-ce que ça va pas lui renvoyer trop de souffrance? Et de pouvoir aussi là un peu créer un contrat de comment on communique sur la question de la maternité ensemble, qu'est-ce qui est possible pour toi ou non. Je sais pas ce que t'en penses dans ton quotidien, Mathilde.
Bah, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis et effectivement pouvoir dire aux amis ce qui blesse, c'est super important. Moi par exemple, je sais que mes amis savent que les annonces de grossesse, merci de pas forcément me les faire au milieu de tout le monde au moment de la grande réjouissance. J'ai besoin d'un petit temps où je prends, parce que même si je suis heureuse pour toutes les personnes dans mon entourage qui ont la chance d'avoir un enfant, ça me renvoie forcément à notre propre infertilité. Donc c'est toujours un peu dur et j'apprécie la délicatesse, voilà, que les gens prennent le temps de me le dire en amont, comme ça moi je prends mon temps de voilà où j'habite un peu ma tristesse, et après je peux être dans le bonheur. Et c'est vrai que de la même façon qu'il faut créer un climat de confidence pour que la personne qui souffre puisse exprimer sa souffrance, c'est important que les amis aussi voilà créent ce même climat pour qu'on puisse dire bah voilà, tu sais, à chaque fois qu'on se voit, si t'as ton bébé qui pleure à côté, c'est compliqué pour moi, est-ce que il y aurait pas moyen de, enfin je pense que c'est très important voilà de, en fait de toute façon cette conversation elle ne peut exister que dans un climat de confiance, de vraie amitié. Si on n'est pas dans cette situation là je crois que cette conversation n'a pas lieu d'être, Enfin, je pense pas qu'on se confie de ces souffrances comme ça au premier venu, à cœur ouvert. Donc si on est dans des relations qui sont sincères, tout est de toute façon plus simple. Et si on ne pense pas être dans le cercle de la relation sincère avec la personne en face, peut-être qu'on peut se dire, voilà, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est peut-être juste d'être la copine un peu fun avec qui on prend des verres de temps en temps, mais c'est pas forcément mon rôle de devenir la confidente. Sauf si, par exemple, on connaît exactement la même situation, et là, c'est pour le coup, c'est super sympa. Parfois, une fille qui vient mettre la main sur l'épaule et qui dit, je sais, nous vivons la même chose, et là, du coup, on crée, du coup, un climat de confiance qui permet de se confier. Mais parfois, il y a des choses, voilà, on n'est pas forcément la bonne personne, et c'est pas grave de pas être le bon interlocuteur pour tout le monde.
Et est-ce que c'est une situation, une fois que vous en avez parlé autour de vous, qui vous a coupé de certaines personnes ?
Non, je dirais pas que ça nous a coupé de qui que ce soit. Non, je trouve pas, parce que moi j'adore les enfants, ça me dérange pas du tout de les voir, etc. Après, juste on réfléchit évidemment à se protéger de situations qui peuvent nous rendre trop tristes. Donc ça nous coupe pas, mais voilà, on sait qu'il y a certaines situations, c'est pas celles dans lesquelles on va se sentir le mieux, et donc si on peut décaler, se voir à un autre moment, et justement c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, on ne veut pas être coupé de nos amis à cause de ça. Et d'ailleurs moi je dis à mes amis, par exemple, ne me cachez pas vos grossesses, par exemple, parce que ce qui me ferait plus souffrir, c'est de découvrir que vous êtes enceinte au bout de 6 mois sous prétexte que vous n'avez pas su comment me l'annoncer. Je préfère presque que vous me l'annonciez, que ce soit un tout petit peu indélicat, plutôt que de se dire, ah non, attends, Mathilde, on peut pas lui dire ça parce qu'attends, tu sais, elle y arrive pas. Et en fait, de le découvrir à la fin, c'est ça qui couperait le lien. C'est de nous priver du bonheur des autres sous prétexte de qu'on n'a pas le même. Je serais plus embêtée par ça, mais non, je trouve pas que ça nous ait coupé non plus de nos amis. Enfin, on fréquente des gens délicats et intelligents par sens.
Et ton mari, tu vois, parce que j'imagine, hein, je me dis que ces réflexions, elles sont peut-être, et ces conseils donnés sur lesquels un peu tu te révoltais, entre guillemets, on avait l'impression qu'elles étaient plus adressées à toi. Est-ce que c'est un fait ? Est-ce que, du coup, tu vois, l'homme est mis un peu de côté ? Est-ce que lui, on a l'impression que ça le concerne moins ? En tout cas, est-ce qu'on ose moins lui en parler ? Est-ce que, tu vois, quelle est sa position à lui ? Comment il...
Alors, c'est sûr que je trouve que dans ce genre de situation, c'est toujours la femme qui prend un peu toutes les balles perdues de son hygiène de vie qui est remise en cause par toute la société. C'est un peu terrible. Après, il y a toujours des gens qui ont aussi des conseils à donner sur l'hygiène de vie de mon mari et qui m'expliquent que comme il est militaire, c'est peut-être compliqué. Donc, dire, alors, ça serait si tous les militaires ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, vraiment, merci de remballer ton conseil que je n'avais finalement pas demandé. Mais c'est vrai que je trouve qu'on s'adresse beaucoup moins à l'homme dans ce genre de situation. On oublie qu'en fait un couple c'est deux personnes, qu'on parle pas d'une infertilité d'une personne mais d'une infertilité du couple, et que c'est le couple à deux qui souffre de l'enfant qui n'est pas là. En fait, je porte pas cette peine toute seule. Enfin, mon mari aussi veut un enfant, il l'aura pas dans son ventre, mais il l'aura aussi, il sera père comme je serai mère. Donc je trouve qu'on nie beaucoup aussi l'existence de l'homme dans cette souffrance. Un peu voilà, l'homme c'est celui, comme si c'était un espèce de problème de bonne femme, tu vois, avoir des enfants c'est un espèce de truc de fille. Mais en fait, non, les hommes aussi, c'est ancré en eux de vouloir un enfant, enfin, en tout cas, quand ils ont ce désir. Et je crois que c'est important de ne pas les oublier et que, du coup, voilà, les amis soient aussi là pour les hommes. Et c'est vrai qu'on leur pose beaucoup moins de questions, un peu. Comme s'ils n'étaient pas concernés, alors qu'ils sont tout autant concernés, qu'ils ont tout autant besoin d'un climat de confiance et de dialogue avec leurs amis. D'autant plus qu'on leur pose 1000 fois moins la question.
Ouais, c'est ça. Entre hommes, je pense, entre amis masculins, ils ont moins tendance certainement à se poser la question. Tu vois, le prochain, c'est pour quand ? Il y avait mon beau-frère qui était là l'autre jour, donc c'est le petit frère de mon mari. Il y avait ma belle-sœur, en fait, elle n'était pas présente, mais on était avec elle par Skype. Et donc, ils ont eu un premier enfant. Et donc, moi, c'est moi qui ai posé la question. Alors, le petit deuxième. Bon, alors déjà, tu vois, quand je me dis peut-être que c'était pas une question à poser comme ça devant tout le monde. Et c'est vrai qu'en fait, si tu veux, lui, mon mari, est-ce qu'il aurait posé cette question à son frère ? Tu vois, je pense pas. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est peut-être plus une sensibilité féminine de se poser ces questions, mais je sais pas, Marie-Lise, est-ce que tu vois,
je me dis, est-ce que c'est pas aussi des stéréotypes de genre, tout ça, enfin, avec les questions aussi autour de même la maternité, est-ce que là on parle de l'infertilité dans le couple, mais t'en parlais au début, c'est des questions que tout le monde a, enfin, je vois Lorraine sur son compte émancipé, elle en parle aussi de tout ça, elle avait fait un post, je me rappelle, sur toutes les remarques à balancer à Noël là, sur le vieil oncle qui vient nous embêter, je trouvais ça très drôle, mais sur comment tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans notre utérus, quoi. Enfin, c'est où t'en es. Et je pense que c'est aussi c'est un peu un mouvement féministe aussi de se dire bah en fait ça concerne la fertilité, ça concerne le couple, le désir d'enfant, ça concerne le couple, et arrêter de vouloir vous préoccuper toujours de ce qui se passe dans le corps de la femme, enfin et avec ces intrusions qu'il peut y avoir, je pense que c'est une revendication plus large qu'on peut avoir et que les hommes pourraient porter aussi, je pense par exemple en parlant aussi bah peut-être en s'interposant, pouvant dire aussi mais tu sais moi aussi je suis concernée par cette souffrance, tu sais l'infertilité c'est le couple qui la porte, c'est pas ma femme qui porte l'infertilité, c'est notre couple. Donc à tous les hommes qui nous écoutent, de comment aussi peut faire passer le message sur ça, parce que je pense que ça viendra d'eux aussi pour qu'il y ait une évolution.
Est-ce que toi, par exemple, Marie-Lise, si t'as un couple qui vient consulter et qui a eu ce problème, soit d'infertilité, soit d'avoir perdu un enfant en couche, est-ce que t'as l'impression qu'effectivement la femme, elle a pu s'exprimer davantage et que en fait, quand toi tu donnes la parole à l'homme, il va y avoir une espèce de libération de sa parole que même sa femme va découvrir. Est-ce que tu vois, t'as pu vivre ça parfois?
Je l'ai pas forcément vécu sur cette situation-là, mais je vois bien où oui, il y a aussi cette pudeur où c'est plus compliqué pour l'homme. Enfin, on fait des stéréotypes là, on reste dedans, mais de pouvoir parler spontanément déjà de ses émotions, parce que si on apprend à l'éducation à l'homme de pas exprimer ses émotions, de devoir les cacher, enfin voilà, c'est un trait féminin, donc il n'a pas à le faire. Et où là aussi, parfois, ils peuvent porter des fardeaux, des choses très lourdes d'un point de vue émotionnel qu'ils n'ont jamais vraiment déposé ou lâché. Alors qu'il y a peut-être plus ces cercles de femmes qui peuvent être possibles pour pouvoir déposer ça. Et encore, parfois, on culpabilise et on laisse même pas non plus à la femme la possibilité de se lâcher, où on va pouvoir dire, mais tu sais, il y a plus grave, c'est pas si pire. Bon, si on trouve les bonnes personnes, il y a une possibilité, mais oui, j'ai peut-être plutôt ouais, ce fait de il n'y a pas assez d'espace ou d'autorisation à la fois de la société et le fait de s'autoriser soi-même pour l'homme à exprimer ce qu'il peut vivre d'un point de vue émotionnel.
Et Mathilde, je reviens vers toi. Est-ce que, du coup, maintenant, tu vois que vous avez un peu vécu ces situations des remarques des autres, et c'est quelque chose dans lequel tu mets de l'humour maintenant, et tu vois, qui te semble plus léger, d'autant, enfin, maintenant, tu vois que tu as écrit dessus, que, ou c'est quelque chose, en fait, qui passe pas. Tu vois, qui...
Non. Là, déjà, je pense que j'ai une chance, c'est qu'effectivement, comme je suis un peu sur les réseaux, les gens qui me suivent, maintenant, c'est clair. Enfin, je veux dire, je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur la question. Tout le monde a compris qu'il fallait arrêter d'essayer de guetter. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans mon verre? Est-ce que j'ai mon ventre qui a grossi? Donc déjà, j'ai un peu aussi éradiqué le problème à la racine. Hein, c'est-à-dire que, voilà, hop, arrêter de surveiller. Parce que je recevais beaucoup de questions comme ça. Ils disaient, je vois que tu bois du coca. Bah oui, parfois, je bois du coca. Enfin, je ne bois pas de l'alcool toute la journée. Et les gens qui disent ah bah, j'ai l'impression que t'as pris du ventre, je dis oui bah je me nourris et parfois effectivement je prends des fondues savoyardes et ça me fait grossir comme tous les humains et c'est pas forcément un bébé. Donc là j'ai enlevé toute cette ambiguïté tous les questionnements pour le FBI de la grossesse là. Donc les gens me posent beaucoup moins la question et c'était aussi un peu un des buts du poste, c'était de dire voilà ok j'ai l'impression qu'il existe une espèce de curiosité autour de notre fertilité, donc ok déjà c'est pas une honte, déjà je vais en parler parce que c'est pas une honte de pas réussir à avoir un enfant, c'est pas de notre faute. Donc déjà on lève le truc là-dessus où tout le monde se sent un peu la culpabilité. Enfin, comme on disait tout à l'heure, toutes les réflexions qui sont quand même super culpabilisantes, on arrête avec ça. C'est pas une honte, donc je vais le dire publiquement parce que ce n'est pas une honte. Parce que je veux qu'on arrête de me poser la question. Et effectivement, bah maintenant, j'en rigole un petit peu. Alors, il y a une amie qui m'avait conseillé la phrase qui dit bah, les bébés, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Puis parfois, maintenant, j'éduque un peu les gens, parfois avec gentillesse, mais je leur dis tu sais, les enfants, tout le monde ne peut pas avoir un enfant quand il veut avoir un enfant. Et je suis très heureuse pour toi si vouloir est égal pouvoir. C'est merveilleux. Mais c'est pas le cas et je mets un peu d'humour, mais j'essaye de mettre beaucoup j'ai pas la prétention d'éduquer les gens, mais je pense que c'est quand même important de parler de ce sujet que je trouve peu. On en parle très peu, je trouve. Finalement, je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y a plus aucun tabou. Justement, la grossesse, tout le monde raconte son accouchement de A à Z. Le postpartum, pareil, zéro tabou. Et l'infertilité, moi, j'étais jamais tombée sur les réseaux, sur des posts sur le sujet. Je vois plus la chose quand même d'un point de vue. Allez, levons le tabou. On peut évidemment en rire et j'en rigole quand les gens continuent à poser la question. J'ai dit, quand ils disent, t'as pris du ventre, j'ai dit, je suis juste grosse. C'est des choses qui arrivent. Enfin, j'ai tendance à les mettre un peu, à provoquer un peu le malaise. Pour les renvoyer au fait que leur question est malaisante et pas ma réponse. Mais c'est vrai que je vois plus, voilà, une visée de dire, de créer un espace de débat plus que juste une nouvelle vanne sur mon compte, quoi.
Et justement, tu parlais de fêter les mauvaises nouvelles. Quand c'est en lien avec votre projet d'enfant, vous arrivez justement à fêter les mauvaises nouvelles par rapport à toutes ces questions-là. Et je suppose que, enfin, souvent ça tombe, hein, les mauvaises nouvelles quand on est dans un projet d'enfant et que c'est compliqué.
Oui, oui. En fait, c'est exactement quelque chose qu'on fait. Alors là, du coup, on fête tous les mois ce qui n'est pas super rigolo. Mais bon, du coup, comme je suis pas enceinte, fatalement tous les mois les cycles reprennent. Et c'est vrai et on le fête. Donc du coup ça rend cette période du mois qui n'est pas toujours la plus heureuse un peu plus sympathique. Et oui champagne, 8 foie gras, en fait tous les trucs que j'aurais plus le droit de manger si un jour je tombe enceinte, on les sort quand l'espoir est déçu. C'est une habitude qu'on a pris, voilà, parce que sinon on pourrait aussi rester tous les deux à se regarder en pleurant. Ce qui est une option, mais pas la plus sympathique. Et on peut aussi se dire, viens, tu sais quoi, bon bah ok, mais regarde, je peux encore manger des huîtres. On a un peu cette philosophie de la chose. Voilà, où je m'achète des robes moulantes, tu vois, des robes super moulantes. Non, voilà. Tant que je peux en porter, j'ai continué à me les acheter. Et toutes les choses que peut-être je ferais différemment le jour où je suis enceinte, on se dit, bah, tant qu'on peut les faire, même si on aimerait ne plus pouvoir les faire parce qu'il y a une grossesse, faisons-les en se disant, on a la chance de pouvoir encore les faire. Je sais pas si c'est très clair.
Si c'était clair.
Est-ce qu'on peut conclure en disant qu'en fait, quand même, la créativité rend la vie plus belle?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et mon mari rend la vie beaucoup plus belle aussi, quand même. Je tiens à dire que j'ai quand même de la chance que ce soit lui que j'ai rencontré.
Et puis, c'est un des ingrédients pour nourrir le lien aussi, hein, que ce soit le lien amoureux, l'intensité amoureuse, la vie sexuelle. Enfin, c'est une bonne clé, je pense.
En tout cas, mille merci Mathilde d'être venue t'ouvrir comme ça à notre micro. Je suis certaine que tu vois, ça va permettre à la fois pour les couples qui vivent la même chose que vous, eh ben peut-être de piocher des idées dans ce que vous faites, peut-être de dédramatiser aussi, peut-être aussi de leur donner de l'assurance par rapport à des choses qu'ils pourront entendre. Et puis à ceux qui comme moi savent pas toujours comment se placer, une leçon. En tout cas, qui nous permettra peut-être d'être plus au fait et plus délicat avec notre entourage qui vivent cette situation. Donc vraiment, mille merci de ta confiance parce que c'était un moment très chouette, hein, une conversation vraiment vraiment chouette. Hein. Donc
merci.
Je crois que il y a des belles vacances qui se préparent pas longtemps.
Donc, vacances de retrouvailles. Il rentre bientôt là.
Ouais, on voit déjà l'énorme smile. Donc on vous souhaite en tout cas de très belles vacances. On n'est pas trop inquiète. Et surtout, tu continues sur ton compte. Je mettrai ton compte dans les notes pour tous ceux qui veulent venir te piquer des idées. Voilà, tu verras, je t'en piquerai, hein, mais je te taguerai pour dire que ça vient de toi.
Il n'y a pas de
ça, c'est
right,
sûr.
C'est
mais surtout, partage-les parce que on n'a pas tous le même esprit créatif. Et puis, voilà. Il nous faut des personnes autour de nous inspirantes pour ça. Ça, je me souviens qu'on l'avait écrit aussi, Marie-Lise. C'est important. Donc, continuez tous les deux à partager avec nous, même si certains peuvent, tu vois, peut-être penser que, tu vois, il y a du montage, que ça fait un peu cinéma et que la réalité est sûrement autre.
Non, mais c'est même mieux en vrai. Non. Il y a pas de montage. Ah ouais, on est vraiment tu vois. Aussi amoureux qu'on le montre, voire plus. Non, il y a pas de.
Moi j'en suis persuadée, ouais. Tu vois, mais il y a toujours. Donc ouais, voilà. Donc, mais surtout, voilà, ne vous priez pas de ça parce que je pense que, t'as vraiment, tu vois, en tout cas, en plus sur ce sujet, t'as pierre à apporter, je pense. Tu vois, et tu peux vraiment être inspirante. Donc vous pouvez être inspirants tous les deux. Donc on continuera à suivre avec plaisir. Merci Marie-Lise.
Bah merci, c'est un plaisir d'échanger ensemble.
Et puis, on vous donne rendez-vous, évidemment, très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. À très bientôt.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.